Bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien. Hélène Denis qui vous parle. Et on est le vendredi 20 janvier 2017. Est-ce que vous le saviez, vous, cher Mathieu Tessier?
Oui, je me suis réveillé ce matin. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? Ah oui, c'est
je
la journée
mon lavage.
Internationale du câlin. Mais je me suis dit, il y a d'autres choses aussi qui se passent, me semble. Je trouve ça une très belle coïncidence que ce soit aujourd'hui la journée internationale des câlins, alors que c'est aussi l'investiture de Mr. Trump.
Alors, vous faites un lien entre ces
Je
deux
fais,
événements-là?
Oui, il faut beaucoup d'amour aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que, tant qu'à en parler, le câlin original date du mois de mars 86, alors que le révérend Kevin Zaberny a eu l'idée de la première journée des câlins. Il avait constaté que le début de l'année jusqu'à la Saint-Valentin, donc le 14 février, était une période de forte dépression.
Avant 1986, les gens ne se donnaient pas
exact.
De câlin.
Maintenant, c'est les années 80, tout le monde était joyeux.
Mm-hmm.
Donc aujourd'hui, 20 janvier, l'investiture du 45e président des États-Unis. Puis là, je me suis dit, on va retourner un peu dans le temps. 2009, c'était le 44e président des États-Unis, Barack Obama. En 2005, George Bush est assermenté comme président des États-Unis pour un deuxième mandat. En 2001, le matin, à Washington, Bill Clinton accorde la grâce présidentielle à une centaine de condamnés, dont son frère, Roger. Et à midi, c'était George Bush, fils, qui prêtait serment comme 43e président. Ils ont eu 1993, Bill Clinton. 1989, George Bush devient le 41e président des États-Unis, excusez-moi. Mm-hmm. 1981, Ronald Reagan. Et 1961, John Kennedy, qui, comme 35e président, était le plus jeune président des États-Unis à être élu. On revient en 2012. Le comédien montréalais Tony Conte est déclaré coupable de complot et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. 2007, on se souvient que Hillary Rodham Clinton se lance officiellement dans la course à la Maison-Blanche. 2006, la Cour d'appel de Santiago lève l'immunité de l'ex-président chilien Augusto Pinochet dans 59 affaires, 36 enlèvements et 23 cas de torture. En 2004, le présumé chef de la mafia canadienne Vito Rizzuto est appréhendé à Montréal à la suite d'une demande d'extradition aux États-Unis pour des meurtres commis à New York en 1981. 1986, la première ministre britannique Margaret Thatcher et le président français François Mitterrand conviennent d'un double tunnel ferroviaire qui reliera les villes de Douvres et de Calais en 1993. Il faut savoir aussi que l'un des tunnels sera réservé aux trains ultra rapides et l'autre aux transports ferroviaires et aussi aux autos et aux autobus. Et fait intéressant, la construction de ces tunnels souterrains avait déjà fait l'objet de deux projets, dont l'un en 1870 et l'autre dans les années 70, donc 1970, mais tous deux avaient été annulés pour des raisons politiques et économiques. Et l'ouverture du tunnel qu'on a présentement date de 1994. La Cour d'appel du Québec maintient l'acquittement de Henry Morgan Taylor, accusé d'avortement illégal. Ça, c'était en 1976. 1964, Marcel Chaput met fin à un jeûne de 63 jours tenu pour la cause de l'indépendance du Québec. 1923, les chemins de fer du gouvernement du Canada prennent le nom de Canadien national. Et en 1841, au terme de la première guerre de l'opium, la Chine doit céder le territoire de Hong Kong à la Grande-Bretagne. Et pour ce qui est des naissances, le merveilleux cinéaste italien Federico Fellini est né en 1920, un 20 janvier. Le fabuleux romancier Jacques Ferron est né à Louisville en 1921. Et Pierre Lalonde, chanteur et animateur, est né en 1941.
Le formidable Pierre Lalonde.
Oui, je vous laissais le colibri. Et pour ce qui est des décès, en 2013, le commentateur sportif québécois Richard Garneau est décédé. L'actrice Audrey Hepburn en 1993, qui était née en 1930. Et pour terminer, le peintre et graveur français Jean-François Millet, excusez-moi, il manque de souffle, en 1875, nous a quittés un 20 janvier. Ce qui conclut les éphémérides d'aujourd'hui, pardon.
Vous avez peut-être besoin d'un câlin, Mathieu?
Toujours.
Ça vous ferait arrêter de tousser.
Vous pensez?
Bonne journée.
Merci.
À la une de la presse aujourd'hui, la presse à Washington, le jour est venu, Donald Trump devient aujourd'hui le 45e président des États-Unis. Exclusif, 5,5 millions volés par un faux PDG. Salon de l'auto, feu d'artifice sur quatre roues. Affaire, dette d'horreur, portrait inédit du surendettement, un mal discret mais plus répandu que jamais chez les Québécois. Exclusif, le train de la caisse rate le test du BAP. Des millions dérobés par de faux patrons, des maîtres de l'imitation ont personnifié les PDG de 90 firmes québécoises afin de demander frauduleusement des virements bancaires. Ils ont volé 5,5 millions à la coop fédérée et près de 2 millions à un fabricant de systèmes hydrauliques. Tout était réaliste. Tout était tellement réaliste que France Cadieux n'y a vu que du feu. Elle a signé le document et transféré les 5,5 millions en Chine comme son président le lui demandait. La dame s'y connaissait en finance, comptable professionnelle agréée. Elle avait travaillé au vérificateur général du Canada qui lui avait confié des missions névralgiques au Canada et en Europe. Elle avait ensuite gravi les échelons à la coop fédérée, propriétaire des quincailleries BMR et des marques de viande Olimel, un géant du monde agricole dont le chiffre d'affaires avoisine les 10 milliards de dollars annuels, où elle est devenue contrôleuse des finances. Elle occupait le poste depuis 10 ans lorsque les fraudeurs ont frappé le 21 août 2014. En ce jeudi matin à 9h32, elle reçoit un courriel de Gaétan Desroches, chef de la direction de la coop, qui n'est pas au bureau ce jour-là. Il lui explique que l'entreprise va procéder à une offre publique d'achat, l'OPA. L'opération est rigoureusement surveillée par l'Autorité des marchés financiers du Québec et doit être tenue strictement confidentielle jusqu'à sa conclusion. Il lui demande de prendre contact avec un avocat externe, Maître Deschamps, pour préparer un virement de fonds. Elle ignore qu'il s'agit d'une supercherie appelée « fraude du président ». L'argent ne sera jamais récupéré. Quelqu'un l'a déjà empoché. De toute façon, selon ce qu'a appris la presse de sources proches du dossier, les requêtes d'assistance du Québec envoyées en Chine dans le cadre de fraude du président sont toutes restées lettres mortes. Un problème soulevé à travers le monde par plusieurs experts en fraude financière. Ni le ministère des Affaires étrangères à Pékin, ni le consulat n'ont répondu à nos demandes de commentaires. Gilbert Chicly, un Français considéré comme l'inventeur de la fraude du président, a déjà expliqué à l'Associated Press qu'il blanchissait 90 % de ses profits en Chine, entre guillemets, parce que, dans l'ensemble, la Chine fait un gros doigt d'honneur aux autres pays. Le BAP jette une douche froide sur le projet de la Caisse. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement va jeter une douche froide sur le gouvernement Couillard et la Caisse de dépôt et placement. Dans un rapport qui sera rendu public aujourd'hui en fin de journée, le BAP conclut qu'il ne peut donner un avis favorable pour la mise en place du réseau électrique métropolitain, le REM, le super projet de train électrique de 5,5 milliards de dollars. Irritant profondément le gouvernement et la Caisse, le BAP soulève des questions sur la pertinence du projet en termes d'achalandage et de rentabilité, des enjeux qui débordent largement le mandat environnemental de l'organisme. Mais ce n'est pas la première fois que le BAP élargit son champ d'analyse au nom de l'acceptabilité sociale d'un projet. L'étude du BAP est un passage obligé pour que le Conseil des ministres donne le feu vert au projet, mais l'organisme reste uniquement consultatif. Le gouvernement peut aller de l'avant sans l'aval du bureau. « vers la présidence Trump, petit déjeuner dans le château du président. Après des semaines de préparation dans son fief new-yorkais, Donald Trump emménage aujourd'hui à la Maison-Blanche. L'homme d'affaires qui deviendra le 45e président américain à midi fréquente depuis un certain temps l'avenue Pennsylvania, où est située la célèbre demeure. Depuis octobre, il y exploite un hôtel qui, comme lui, baigne dans la controverse. Notre journaliste y a fait un arrêt incognito hier. Alors, n'entre pas à l'hôtel international Trump qui veut, l'ancien bureau de poste de la capitale transformé en hôtel 5 étoiles par l'homme qui prêtera serment comme président des États-Unis aujourd'hui, fait l'objet ces jours-ci d'autant de mesures de sécurité que la Maison-Blanche. Pour se faufiler entre les multiples gardiens postés à une centaine de mètres de la porte, il faut soit payer plus de 1 000 $ la nuit pour y avoir une chambre, être invité personnellement par le président désigné qui fait de fréquentes apparitions, ou avoir obtenu une réservation en ligne au seul restaurant de l'hôtel, le BLT, ce que nous avons fait. Le stratagème a fonctionné. Au bar de cette pièce aussi grande que le hall de Grand Central à New York, on peut boire du vin dans des cuillères de cristal, assis sur l'un des canapés de velours bleu. Au restaurant, on peut commander un cocktail à 120 $ comprenant homard et fruits de mer, ce qui porte le nom, le cocktail porte le nom de la Tour de l'Horloge, un monument historique intégré à l'édifice que l'on voit poindre à travers le toit de verre de l'hôtel. Qui dit hôtel politique dit aussi controverse. Depuis son ouverture, il y a un peu moins de 4 mois, ce château Trump, rénové au coût de 222 millions de dollars US, est au cœur d'une myriade de controverses. Plusieurs entreprises de construction ont entamé des procédures judiciaires contre l'homme d'affaires new-yorkais, affirmant qu'on leur doit 5 millions US pour services rendus. Françoise David démissionne pour éviter l'épuisement. C'est l'épuisement professionnel qui guettait Françoise David si elle continuait à assumer les fonctions de députée, a-t-elle expliqué hier en confirmant son départ immédiat de la vie politique 5 ans après son élection. La militante féministe devenue politicienne ne réclamera pas de prime de transition et se dit sereine quant à l'avenir de son parti. Dans la foulée de l'annonce de son départ, Françoise David a reçu de nombreux éloges, tant de Québec que d'Ottawa. Merci, Françoise David, pour votre grand dévouement, votre service public et votre travail à l'avancement à la cause des femmes, a écrit le premier ministre Justin Trudeau sur les réseaux sociaux. Philippe Couillard, pour sa part, a salué dans un communiqué une femme estimée, respectée, mais surtout aimée, avec un parcours remarquable. La sœur de la députée solidaire, la députée libérale Hélène David, avait certainement le message le plus personnel de tous. À ma sœur, mon amie, ma collègue, merci pour tout ce que tu as fait pour le Québec. Le bureau du taxi distribue un code de bonne conduite sévèrement critiqué pour la qualité de leur service et la propreté de leur voiture depuis l'arrivée d'Uber à Montréal. Les chauffeurs de taxi devront se conformer à un nouveau programme d'assurance qualité dont les principales mesures entrent en vigueur ces jours-ci. Le bureau du taxi appose ces jours-ci bien en vue dans la fenêtre des passagers de tous les taxis un document intitulé « Engagement à la qualité des services ». Il spécifie entre autres que les paiements par carte de crédit ou de débit doivent obligatoirement être acceptés par les chauffeurs, peu importe le montant et sans frais. La charte précise aussi qu'il est interdit aux chauffeurs de tenir une conversation téléphonique en votre présence, même en mode main libre. Quant aux clients, le Code de bonne conduite précise clairement qu'il leur est interdit de demander aux chauffeurs d'enfreindre la loi. Et les chauffeurs recevront ces prochains jours un petit manuel illustré intitulé « Taxi, maintenir un service professionnel et protéger son métier ». Je suis un professionnel et j'en ai l'air. Je suis un ambassadeur de la ville. Je donne un service de qualité et mon image est à la hauteur de mon service, lit-on dans le livre dont le ton paraît parfois un peu infantilisant. Et je termine avec une bonne nouvelle, 750 000 $ amassés pour 6 hôpitaux. Une soirée bénéfice qui se tenait hier soir au Salon de l'Auto de Montréal a permis d'amasser 750 000 $ pour les fondations de 6 hôpitaux de la région métropolitaine, Sacré-Cœur de Montréal, l'Institut de cardiologie de Montréal, le CHUM, la Cité de la santé Pierre-Boucher et Santa Cabrini. Le gratin artistique, automobile, politique et philanthropique était présent pour l'occasion. Alors, on voit une photo sur laquelle apparaît, entre autres, Pierre Pellan, membre du CA de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Mélanie Lacouture, directrice générale de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, Luce Moreau, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM, Louis Gaudreau, président du CA de la Fondation Cité de la santé, Rémi L. Rousseau, coprésident du comité organisateur de l'avant-première Bénéfice 2016.
Les Américains par Robert Charlebois.
À la une du Devoir, alors on voit une photo et puis au-dessus de la photo, on peut lire Donald Trump, une intronisation bien orchestrée. Le vœu de bouclier à l'Université de Montréal. Optimiste, engagé, néanmoins épuisé, Françoise David a livré de nombreux combats, mais s'arrête maintenant avant de tomber. Wycliffe Jean, retour sur disque, point de suspension et sur l'importance de l'engagement politique. Ma vie sans écriture aurait été un désastre, raconte Gilles Archambault. Et la chronique de José Blanchette, un monastère vraiment pas austère. Alors, je reviens sur la photo, la répétition, alors que le tout Washington finalait les derniers détails en vue de la cérémonie d'entrée en fonction du prochain président des États-Unis, prévu aujourd'hui même. Donald Trump a posé les pieds dans la capitale américaine jeudi, après un passage au cimetière militaire d'Arlington. D'ailleurs, on voit un militaire qui dirige un orchestre. Il a donné le coup d'envoi des festivités avec un concert au Memorial de Lincoln, un avant-goût des célébrations. Françoise David a livré de nombreux combats, mais s'arrête maintenant avant de tomber. Madame David a 69 ans depuis une semaine. Aujourd'hui même, ce vendredi, un homme de 70 ans entre à la Maison-Blanche, d'où il dirigera les États-Unis. À chacun son expérience et ses capacités, bien sûr. La question se pose tout de même, qu'est-ce qui fatigue tant la réputée infatigable Françoise David? D'où vient ce sentiment d'une tâche sinon surhumaine, du moins incapable à accomplir maintenant? Elle cite alors en litanie ce qui l'a siphonné. L'intensité du travail à QS, Québec solidaire, le stress inhérent à la vie politique à l'Assemblée nationale, l'atmosphère souvent agressive qui règne, la multiplicité des positions à défendre quotidiennement dans un tourbillon médiatique, les déplacements incessants, je n'y arrive plus. En entrevue, elle revient sur les épuisants rapports entre les pouvoirs médiatiques et politiques dans notre société. Elle évoque des points de presse où on se pointait ou ne se pointait aucun journaliste. J'aime prendre connaissance des dossiers avant de prendre position. Mais combien de fois m'a-t-on demandé de réagir à chaud, très, très vite, sur n'importe quoi? J'ai remarqué qu'en 4 ans et demi de travail de député, je travaillais encore plus à la fin qu'au début parce qu'il faut de plus en plus nourrir la bête médiatique tout le temps. Un ambitieux projet de refonte de la gouvernance de l'Université de Montréal qui donnerait la majorité des sièges du comité exécutif à des gens issus de l'extérieur de l'établissement provoque de la grogne au sein de la communauté universitaire, a pris le devoir. Le recteur Guy Breton a informé les professeurs, étudiants, doyens et membres du personnel tout juste avant le congé de Noël de sa volonté de dépoussiérer la charte de l'université adoptée il y a 50 ans. Le projet vise notamment à faire davantage de place aux diplômés de l'université issus du monde des affaires ou d'autres secteurs de la société dans la gouvernance de l'établissement. Des professeurs craignent que l'université se mette au service des entreprises au détriment de la liberté intellectuelle des professeurs et des étudiants. L'enseignement n'est pas une marchandise, rappelle-t-il. Depuis le Moyen Âge, ce sont les professeurs, les étudiants et le personnel qui administrent l'université. Pas des gens externes à l'université, dit Karim Ben Yeklef, directeur du laboratoire de cyberjustice. On sera comme une usine à saucisses, sous le couvert de la gouvernance, on est en train de mettre à mal une institution millénaire. En route vers Washington pour dénoncer le nouveau venu, une cinquantaine de Québécoises participent à la marche des femmes de la capitale. Deux nuits blanches pour Donald Trump, voilà dans quoi s'embarquent 54 personnes, dont 53 sont des femmes, en montant à bord d'un autocar au départ de Montréal vendredi soir. Destination, l'avenue de l'Indépendance, près du Capitole, là où Washington, D.C. aura déjà accueilli, au moment de leur arrivée samedi matin, le nouveau président des États-Unis. En 2 semaines de travail, un autocar a été nolisé, 2 conducteurs ont été trouvés, une manifestation à Montréal a été organisée. Et puis, 53 femmes et un homme ont décidé de faire l'aller-retour, de passer à Washington, D.C. Qu'est-ce que la marche des femmes d'un simple appel lancé par une grand-mère hawaïenne, Teresa Shook, au lendemain de la victoire de Donald Trump? La marche des femmes est devenue une énorme organisation. un événement qui a désormais sa propre application pour téléphone mobile et qui a encouragé des femmes de partout à travers le monde à marcher pour les droits des femmes. C'est comme si les femmes étaient assises sur un baril de poudre et que Donald Trump avait craqué une allumette, a réagi mercredi l'une des coordinatrices de la marche des femmes. Quand le nombre de personnes inscrites à des marches à travers la planète a dépassé le million, elle n'en revenait pas. Au total, 616 marches sont annoncées dans 151 villes situées dans 58 pays. Au Québec, une marche est organisée samedi à 11 h au départ de l'esplanade de la Place des Arts. Une heure plus tôt, des résidents de Sutton se donnent rendez-vous pour leur propre marche au départ du bureau de poste de la rue principale. Alors, on nous donne un petit cours d'intronisation. Intronisation 101, le programme d'aujourd'hui, matinée, service religieux à l'église épiscopalienne Saint-Jean, auquel assisteront les familles de Donald Trump et du vice-président désigné Mike Pence. Cette tradition a été instaurée en 1933 par Theodore Roosevelt. Le président sortant Barack Obama et sa femme Michelle accueilleront Donald et Melania Trump pour un thé à la Maison-Blanche avant de se joindre au cortège qui les mènera sur le parterre du Capitole. 9h30, ouverture de la cérémonie par le thème Uniquely American par la fanfare des Marines ou des Marines et par le sénateur Roy Blunt. 11h30, le vice-président Mike Pence prononcera son serment d'office devant le juge de la Cour suprême. Midi, le futur 45e président des États-Unis, Donald John Trump, prêtera serment devant le juge de la Cour suprême, John Roberts. Il utilisera la Bible de l'ancien président Abraham Lincoln et une autre offerte par sa mère en 1955. Autour de midi, Donald Trump prononcera son discours d'entrée en fonction, puis une jeune soprano de 16 ans, Jackie Evanko, entonnera l'hymne national américain. Seront présents notamment les juges de la Cour suprême, les anciens présidents des États-Unis Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton, ainsi que son épouse, l'ex-rivale démocrate de Trump, Hillary Clinton, la majorité des élus du Congrès, le comédien John A. Voight, l'ex-maire de New York, Rudolph Giuliani, et l'ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Arnault. La sécurité, environ 28 000 agents du département de la sécurité intérieure de l'Agence des services secrets ont été déployés pour assurer la sécurité, ainsi que 3 000 policiers et 5 000 soldats de la Garde nationale. La facture oscillera entre 175 millions et 200 millions US.
La nuit avec toi. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah. L'homme et la femme sont faits pour se faire les yeux doux. Et comme je suis un homme et toi une femme, ce soir je tente le coup. À la porte de ton champ de vision, mais personne n'est là, personne ne répond. Tes yeux restent fermés et tu me dis accès refusé. Je ne voudrais pas te surprendre, mais j'ai un porte-clé sur la lampe. Mille mots, lesquels veux-tu entendre? Donne-moi donc un indice, je veux goûter aux délices. Oh, 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 quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah! L'homme et la femme sont faits pour faire l'amour. Et comme je suis un homme et toi une femme, je dois te faire la cour. Je sonne à la sonnette de ton cœur. Il n'y a personne à la demeure. Tu me tentes la nuit et tu me dis accès interdit. Je veux ramollir ton cœur de roche. Je vais sortir ma langue de ma poche. Trouver les mots qui nous rapprochent. Je veux te faire de l'effet. Donne-moi le code secret. Wow, 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 quel la nuit avec toi. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe?
Damien Robitaille qui nous chantait sa chanson « Mot de passe ».
À la une du Journal de Montréal, ce policier a-t-il encore pété les plombs? Frais accessoires, deux cliniques fermes et deux passes au privé. On voit à la une aussi une photo de Catherine Davernas, un rôle percutant. Le choc des idées, Trump, un décideur qui ne doute pas, chronique de Denise Bombardier, et des obstacles sur la route de Trump, une chronique signée Loïc Tassé. Deux cliniques de gastro-entérologie de la région de Montréal vont mettre la clé dans la porte et deux autres vont devenir privées d'ici la fin du mois en raison de l'abolition des frais accessoires. Actuellement, plusieurs cabinets de médecins facturent aux patients des frais accessoires, c'est-à-dire un montant pour compenser certaines dépenses comme des gouttes oculaires, par exemple. À la clinique de Laval, les spécialistes du système digestif réalisaient quelques 1500 coloscopie par an, explique-t-on. La consultation et l'acte médical étaient payés par l'assurance maladie, mais la clinique demandait 540 $ aux patients pour couvrir le coût de l'équipement lourd. Dès le 26 janvier, les médecins n'auront toutefois plus le droit d'exiger ces frais. Or, les gastro-entérologues ont peu d'espoir de voir une entente qui leur permettrait de continuer à faire des coloscopies en dehors des hôpitaux. Les médecins spécialistes en ont ras-le-bol de l'attitude du ministre Gaétan Barrette dans le dossier des frais accessoires, au point où ils souhaitent plutôt négocier avec Pierre Moreau. Le ministère de la Santé croit que le pic de la grippe est passé au Québec, passant d'un niveau élevé à modéré. Le pire moment a été atteint entre le 25 décembre et le 7 janvier dernier. Pendant ce temps, des urgences sont toujours sous pression avec des taux d'occupation de plus de 200 % à certains endroits en raison de différents virus. En prison pour une durée indéterminée, un braqueur « gentleman », entre guillemets, spécialisé dans les attaques de bars, mais qui avait aussi volé une réplique d'un violon Stradivarius valant 60 000 $ a été envoyé au pénitencier sans savoir s'il pourra un jour être libéré. À titre d'exemple, en 1998, Leblanc avait volé dans une voiture une réplique d'un célèbre violon Stradivarius. Le violon avait été retrouvé en 2014 et rendu à son propriétaire. « Je m'excuse au propriétaire. Avoir su, je ne pense pas que je l'aurais pris », a dit Reynald Leblanc hier au Palais de justice de Montréal, en se reconnaissant coupable de ce crime 19 ans plus tard. Le braqueur avait toutefois assuré que même s'il sévissait parfois avec une fausse arme à feu, il faisait attention et restait poli avec les victimes. Il ciblait les bars plutôt que des maisons, car les gens se sentent plus en danger lorsque la quiétude de leur domicile est dérangée. Il aurait été battu par un policier. Un agent de la Sûreté du Québec est accusé d'avoir roué de coups un père de famille qui le venait d'intercepter pour des vitres trop teintées, le tout devant son bébé de 11 mois. L'agent Guillaume Saint-Louis, affecté au poste de la Noret, fait face à des chefs de voie de faits armés et causant des lésions, ainsi que l'utilisation négligente d'une arme, soit son bâton télescopique. Ce ne serait pas la première fois que le policier Saint-Louis, 35 ans, se retrouve en eau trouble à cause de son tempérament. L'agent de la SQ, accusé d'avoir brutalisé un citoyen, a lui-même déjà dû payer une contravention de 100 $ pour avoir insulté deux autres policiers, selon les informations du Journal de Montréal. Son copain lui pardonne son infidélité et la soutient. Le copain de la femme accusée d'avoir eu une relation sexuelle avec un mineur sur un bateau de croisière aux Bahamas se dit déçu, mais assure qu'ils forment toujours un couple. Raphaël Blouin fréquentait Karine Gagné depuis plus de 6 mois lorsqu'elle a été arrêtée pour avoir eu une liaison avec un Américain de 15 ans qui lui aurait dit qu'il avait 18 ans. Sur les réseaux sociaux, Raphaël Blouin a confirmé leur relation à lui et à Karine Gagné et a promis de la soutenir jusqu'à son retour. Les deux parents de Karine disent n'avoir eu aucun retour d'appel du consulat canadien. On n'a pas eu d'appel. Le bureau d'Alain Reyes, député de Richmond-Arthabasca, a également tenté de parler aux ressortissants canadiens sans succès. Leur service de bus se réduit pour accommoder Turco. Pour améliorer son service sur les grands axes et surtout du chantier Turco depuis le début de l'année, la STM a dû couper 1005 départs sur 47 lignes d'autobus, principalement dans des quartiers déjà mal desservis par les transports en commun, déplorent plusieurs. Par mesure d'équité, on ne devrait pas toucher aux lignes des quartiers déjà vulnérables, estime Paula Négron de l'Observatoire de la mobilité durable. Pour le conseiller de projet Montréal, Sylvain Ouellette, la STM a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Énormément de ménages n'ont pas d'automobile, ça a des conséquences importantes. Plus il y a de services, plus il y a d'achalandage, ajoute aussi François Pépin de Transport 2000, qui comprend que la STM ait des choix budgétaires à faire. Des travailleurs dénoncent les augmentations de 25 cents ou 50 cents l'heure selon l'emploi. Les travailleurs à pourboire et ceux payés au salaire minimum qualifient de dérisoires les hausses de salaire annoncées hier et estiment qu'en fin de compte, ces quelques sous de plus n'auront pas un grand impact sur leur capacité financière. Pour Frédéric Lamontagne, salarié à pourboire au Saint-Hubert de Lévis, c'est sur les effectifs que la hausse risque de se faire sentir. Les restaurateurs ne pourront pas augmenter les prix par assiette, ils vont couper dans le personnel, croit-elle. Et les militants du 15 $ l'heure se disent déçus. C'est extrêmement décevant, réagit d'emblée la présidente de la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ, Louise Chabot. Selon elle, au rythme des projections présentées, il faudra attendre jusqu'à 2027 avant que le salaire minimum atteigne la fameuse cible de 15 $. Avec 11,25 $, on a encore besoin de banques alimentaires pour survivre, a dénoncé la nouvelle porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. En ce jour d'assermentation du 45e président des États-Unis, des manifestations anti-Trump sont prévues aujourd'hui dans plusieurs grandes villes américaines, de même qu'à Montréal. Un rassemblement est prévu ce matin à 11 h au métro Place des Arts et un autre à 18 h au Carré Phillips en solidarité avec les militants de Washington. La régie interdit la bière faite avec l'eau de la mine, une microbrasserie qui utilisait l'eau d'une ancienne mine d'amiante pour l'une de ses bières doit modifier sa recette puisque la régie des alcools leur interdit cette pratique. La ciel ouvert ne pourra plus être brassée avec l'eau de la mine Jeffrey. L'ancienne mine amiante d'asbestos est désormais remplie d'une eau de source qui avait inspiré les copropriétaires de la microbrasserie Moulin 7. Ce n'est pas parce que c'est l'eau de la mine, c'est parce que l'eau ne provient pas d'un puits fermé ou d'un système d'aqueduc, explique l'un des copropriétaires, Danick Pellerin. Alors voilà, c'est ce qui complète la revue de presse du Journal de Montréal.
J'ai des vagues dans la tête et des idées vagues. C'est comme à l'intérieur d'une valise après un long voyage. J'ai une tempête dans la tête et tout est à l'envers. Le bruit dans mes oreilles provient de l'intérieur. Combien de jours dure la vie? Je ne sais pas. Je sais seulement que des fois c'est trop dur et que ça prend tout mon temps. C'est trop dur et que ça prend tout mon temps. J'ai des vagues dans la tête, mais je n'ai pas le pied marin. Tout tourne un peu trop vite autour de moi. Je cherche appui, je vais tomber. J'ai un terrain vague dans la tête et j'y ai perdu ma boussole. J'aimerais bien la retrouver avant que ne tombe la nuit. C'est trop dur et que ça prend tout mon temps. Combien de jours, combien de nuits? Je sais seulement que des fois c'est trop dur et que ça prend. Ça prend tout mon temps.
J'ai des vagues dans la tête, Urbain Desbois.
Une femme d'exception, c'est une chronique signée Rima El-Khoury. Françoise David quitte la politique à une époque où, plus que jamais, on y a besoin de femmes inspirantes comme elle. Loin de moi l'idée de lui en faire le reproche. Comme de nombreux citoyens et politiciens, toutes allégeances confondues, j'ai plutôt envie de lui dire merci pour sa contribution exceptionnelle à la vie politique, sa façon exemplaire de rehausser le débat, la profondeur de sa réflexion et son engagement indéfectible pour la justice sociale. Si elle avait pu, elle aurait continué. Mais à 69 ans, sa santé ne lui permettait plus de suivre le rythme effréné qu'impose l'engagement politique. C'est tout à son honneur d'avoir eu la sincérité de l'admettre et la sagesse de s'arrêter. Depuis l'automne, la cofondatrice de Québec solidaire ressentait une fatigue qui ne la quittait plus. Elle attrapait tous les virus qui passaient. Elle se levait fatiguée, elle se couchait épuisée, elle supportait de moins en moins le stress. Après des journées de travail d'au moins 12 heures, elle avait 1000 choses en tête. Les courriels, les textos, les téléphones, les communiqués à corriger, les appels à l'aide de citoyens, les commissions parlementaires, les points de presse, le tourbillon médiatique. Depuis 2012, année où Françoise David a fait son entrée à l'Assemblée nationale, elle a vu les choses s'accélérer jusqu'à lui en donner le tournis. Les exigences médiatiques sont énormes à la fois pour les journalistes, à mon humble avis, et pour nous, confiait-elle hier après son point de presse. Il faut nourrir la bête. La place imposante des médias sociaux demande de nourrir cette bête-là tout le temps. Ça finit par nous demander d'être tout le temps présent, de prendre position sur 3 millions de choses. Ces derniers temps, elle ne se sentait plus la forme de continuer dans ce monde complexe, difficile et agressif qu'est l'Assemblée nationale. La période de questions, pour moi, c'est une institution patriarcale. C'est exagérément agressif. C'est viril. Il y a un côté « et je te plante, et je suis content ». C'est tout le temps les calculs stratégiques pourvu qu'on plante un tel pour arriver à performer, dit Françoise David. Au fil des ans, on s'en est rarement pris à elle. J'ai été plutôt gâtée. N'empêche que ça finit par introduire une atmosphère pesante. Tous doivent jouer le jeu. C'est à qui aura la meilleure place dans les médias, pour le meilleur et pour le pire. C'est sûr qu'avec un caractère tellement partisan, ça finit par déraper. Elle espère qu'une nouvelle génération de femmes et d'hommes féministes parviendra à faire changer cette culture politique. Elle part avec le sentiment du devoir accompli, en ayant confiance en l'avenir, optimiste malgré tout. La montée de l'intolérance et l'instrumentalisation du débat identitaire l'inquiètent particulièrement. Mais l'engagement de jeunes gens allumés et de nombreuses féministes sans complexe lui donne espoir pour la suite des choses. Elle est là, la relève. Je la vois, j'y crois, dit-elle, en faisant notamment référence au mouvement « Faut qu'on se parle ». Fin novembre, la porte-parole parlementaire de Québec solidaire est partie aux îles de la Madeleine où vivent son fils et sa belle-fille qui s'apprêtaient à accoucher. J'ai assisté à l'accouchement, ce qui est une des plus belles choses de ma vie. Je me suis reposée beaucoup. Cela faisait un petit moment qu'elle réfléchissait à son avenir politique. Elle en avait discuté avec son médecin, son amoureux, son fils, son meilleur ami. Elle ne voulait pas décevoir les gens. Mais là, dans le calme de la maison où sa petite fille venait de naître, la décision qui s'imposait ne lui avait jamais semblé aussi claire. Elle ne s'ennuyait pas du tout de l'Assemblée nationale. Elle avait l'impression de se retrouver, de retrouver la forme, de retrouver le moral. J'arrivais d'un milieu qui était de plus en plus pénible. Je me retrouvais dans un milieu où on est tous en train de parler de tendresse, d'amour, de bébé, et j'étais tellement bien, dit Françoise David. Elle s'est dit « c'est peut-être la vie qui est en train de me montrer le chemin ». De retour à Montréal, elle a dit à ses collègues de Québec solidaire « c'est terminé ». Elle sentait que si elle continuait, elle allait s'en rendre malade. L'épuisement professionnel la guettait. Elle était déjà passée par là en 1983 alors qu'elle était une jeune mère débordée. Son fils avait 3 ans. Elle venait de vivre une séparation. Elle travaillait beaucoup et militait en même temps. « J'ai craqué. Je n'ai rien vu venir ». À l'époque, on ne connaissait pas ça. Il lui a fallu 1 an pour se remettre sur pied. Alors non, je ne jouerai pas dans ce film, pas 2 fois. Bien qu'elle ait renoncé à l'allocation de transition prévue dans certains cas pour des députés démissionnaires, comme elle part à la retraite, elle estime qu'elle n'y a pas droit. Elle craignait que les gens lui en veuillent de partir avant la fin de son mandat. C'était ma hantise. Son entourage se faisait rassurant. « Voyons, Françoise, les gens vont comprendre. » Hier, elle était soulagée de voir que son entourage avait eu raison. « Je suis vraiment reconnaissante », a-t-elle dit, émue. Plus émue encore étaient les citoyens qui la voient partir à regret. Pendant qu'elle rencontrait les journalistes un à un homme est entré dans le local de sa circonscription pour lui laisser un bouquet de roses. Des centaines de citoyens lui ont rendu hommage sur sa page Facebook, louant son intégrité et son engagement. « Bonne retraite! Merci pour tout! Vous êtes une source d'inspiration. Vous êtes l'exemple que je donne à ma fille quand je veux lui montrer qu'il est possible de s'engager comme femme en gagnant le respect de tous, sans piler sur les autres pour élever sa voix et la faire entendre. Heureusement pour nous, Même si elle quitte la vie politique, Françoise David promet de ne pas se taire. Ce serait un peu au-dessus de mes forces. Chronique de Marc Cassivi d'aujourd'hui, le film préféré de Donald Trump, point d'interrogation, Citizen Kane, d'Orson Welles, à propos d'un magnat de la presse qui se marie avec la nièce du président des États-Unis avant de se lancer à son tour en politique. 10 films pour le président Trump. L'un des films préférés de Donald Trump est le bien nommé Bloodsport, film d'arts martiaux qui a révélé au public américain le Belge Jean-Claude Van Damme. Un film incroyable, fantastique, selon le 45e président des États-Unis, qui aime revoir ce long-métrage télécommande à la main pour passer outre les dialogues et aller à l'essentiel, les combats. Alors, son film préféré de tous les temps, Citizen Kane d'Orson Welles, à propos d'un magnat de la presse, je vous en ai parlé tantôt. Et à ce propos, Donald Trump a dit « Je n'ai pas fait de promesses électorales, car jusqu'à il y a... » Non, ce n'est pas Donald Trump qui dit cela. C'est plutôt Charles Foster Kane. Donc, je n'ai pas fait de promesses électorales car jusqu'à il y a quelques semaines, je n'avais pas d'espoir d'être élu, dit Charles Foster Kane dans un de ses discours dans le film d'Orson Welles. En cette journée de l'investiture présidentielle, voici donc 10 suggestions de films pour meubler les soirées du président Trump à la Maison-Blanche. Et ça commence avec « Wag the Dog » de Barry Levinson. À l'ère de la post-vérité, ce petit traité sur la manipulation des faits est tout indiqué. L'expression « wag the dog » signifie le fait d'accorder à un élément secondaire d'un récit assez important, assez d'importance pour qu'il finisse par supplanter la trame principale, une façon de noyer le poisson. Cette comédie noire, réalisée par Barry Levinson et scénarisée par David Mamet, qui a pris l'affiche il y a 20 ans, est toujours d'actualité. Pardon. Et je poursuis avec la deuxième suggestion de Marc Cassivi, « Guy Bord s'en va en guerre » de Philippe Falardeau. Philippe Falardeau met en scène un premier ministre conservateur qui tente de convaincre un député de l'arrière-ban, Steve Guibard, incarné par Patrick Huard, de faire pencher en sa faveur la balance du pouvoir afin d'entrer en guerre au Moyen-Orient. Je vais vous dire ce qui va changer, moi, si on part en guerre, des jobs. Qui c'est qui est pour la guerre ici, demande le maire démagogue d'un village de sa circonscription. Pardon, fin du débat. Je serai le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé, déclarait lui-même Donald Trump il y a 10 jours. Troisième suggestion donc de film, selon Marc Cassivi, pour Donald Trump, « Bowling for Columbine » de Michael Moore. C'était un jour comme les autres. Le laitier livra le lait, les gens se rendirent au travail et le président des États-Unis bombarda un autre pays asiatique dont il ne pouvait prononcer le nom. Ainsi commence le pamphlet du documentariste Michael Moore, « Bowling for Columbine », un film troublant sur la manie des Américains à vouloir manier les armes. Alors, il me reste encore quelques minutes pour vous parler des autres suggestions de Marc Cassivi. Pardon, « An Inconvenient Truth » de Davis Guggenheim. Donald Trump a déjà déclaré que le réchauffement de la planète était un canular, une connerie, un concept créé par et pour les Chinois afin d'affaiblir l'industrie américaine. Pour ce climato-sceptique, on suggère la fascinante et convaincante leçon sur les changements climatiques réalisés par le documentariste M. Guggenheim, d'après une conférence d'Al Gore. Et je poursuis avec « No » de Pablo Larraín, le jeune cinéaste chilien Pablo Larraín, qui a réalisé récemment 2 films biographiques, entre autres « Jackie », a été finaliste à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, avec ce film politique fascinant qui raconte de manière originale et captivante comment le régime Pinochet a été défait en 88 par référendum grâce aux efforts d'un jeune publicitaire surdoué. On peut toujours rêver. D'autres suggestions, Election d'Alexander Payne, aussi Milk de Gus Van Sant, Capitalisme, A Love Story de Michael Moore, neuvième suggestion, Frost Nixon de Ron Howard et All the President's Men d'Alan J. Pakula. Alors, à lire donc cette chronique de Marc Cassivi, 10 films pour le président Trump. Hélène Denis qui vous accompagne en ce vendredi 20 janvier 2017 et on se retrouve après la pause avec notamment les informations internationales. Merci Mathieu, je n'étais plus sûre de mes secondes restantes pour vous parler. Ensuite, actualité culturelle et on fera la tournée des journaux régionaux. Vous êtes bien aimable d'être à l'écoute. C'est l'émission Les Voix de service quotidien qui se poursuit dans quelques secondes.
I've always known since I was a young boy in this world everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo. Some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a whole.
Charlie Winston nous chantait la chanson Like a Hobo.
Les informations internationales incontournables aujourd'hui en cette journée Donald Trump. Dans le Journal de Montréal, on parle de l'investiture, bien évidemment, et on nous présente la forteresse roulante de Trump. C'est à bord de cette Cadillac One que le 45e président des États-Unis fera son entrée pour son investiture. Surnommée « The Beast », la bête, cette limousine blindée a été améliorée afin de garantir une sécurité à toute épreuve à Donald Trump. Cette nouvelle voiture présidentielle a été conçue par General Motors en collaboration avec les agences de renseignement américaines. Alors, on voit cette voiture qui est noire, à l'intérieur parfaitement hermétique pour contrer toute attaque chimique ou biologique. L'habitacle arrière peut accueillir jusqu'à 5 passagers. Un ordinateur portable avec Wi-Fi ainsi qu'un téléphone satellite en liaison avec le vice-président et le Pentagone sont en tout temps accessibles au président. Aussi, un fusil à pompe et des grenades lacrymogènes sont disponibles dans le véhicule. Le coffre comprend une réserve d'oxygène, un kit anti-incendie, ainsi que 2 poches de sang compatibles avec celui du président en cas d'intervention médicale. En kevlar renforcé, même à plat, les pneus peuvent continuer à rouler. Renforcé et équipé d'une mousse spéciale pour prévenir toute explosion en cas de coup direct. On parle ici du réservoir à essence. Les portes épaisses de 20 cm, chacune pèse le poids d'une porte d'un Boeing 757. Et le coût de ce véhicule, le véhicule a une valeur d'un peu plus d'un million de dollars américains. Il en a coûté près de 15 millions en développement. Le puissant narcotrafiquant Joaquim El Chapo Guzman a été extradé hier du Mexique vers New York après le rejet par la Cour suprême mexicaine de ses derniers recours. Il est poursuivi au Texas et en Californie, notamment pour trafic de drogue, homicide et blanchiment d'argent. Le roi de l'évasion, qui avait donné des maux de tête aux autorités mexicaines, était incarcéré depuis mai à la prison de Ciudad Juarez, à proximité de la frontière avec le Texas. Au moins 20 pompiers ont été tués et d'autres sont portés disparus après l'effondrement hier d'un immeuble de 15 étages à Téhéran provoqué par un incendie, ont indiqué les autorités après une confusion sur le bilan des victimes. Selon le maire, l'incendie a été initialement maîtrisé, mais une nouvelle explosion au 10e étage a rallumé le feu, ébranlant la structure du bâtiment construit en 1962 et abritant un centre commercial et environ 400 ateliers de vêtements. Australie, 3 personnes ont été tuées et 20 autres blessées à Melbourne par une voiture qui a délibérément foncé dans la foule avant que son chauffeur ne soit arrêté, a annoncé la police qui a écarté la piste terroriste. La police de l'État de Victoria a précisé dans un tweet que la situation était sous contrôle dans le centre de Melbourne, où l'automobiliste a semé le chaos dans une artère commerçante en milieu de journée. « Je peux confirmer que nous pensons que cela est lié à une attaque au couteau survenue plus tôt dans le sud de la ville », a déclaré à la presse Stuart Batterson de la police de l'État de Victoria, dont Melbourne est la capitale. Aucun signe de vie n'émanait hier soir des décombres d'un hôtel où se trouvaient une trentaine de personnes, dont des enfants, 24 heures après l'avalanche qui l'a enseveli près de Farindola, dans le centre de l'Italie, touché par plusieurs séismes. L'alerte avait été donnée mercredi en fin d'après-midi, mais les premiers secouristes ne sont arrivés que dans la nuit, après des heures d'efforts à ski sous les bourrasques de neige. Les États-Unis ont montré leur détermination à éliminer toute présence du groupe armé État islamique en Libye en menant des frappes aériennes meurtrières mercredi soir près de Sirte, d'où les djihadistes avaient été chassés en décembre. Les avions américains ont éliminé plus de 80 djihadistes, a indiqué jeudi le secrétaire à la défense américaine Ashton Carter. Les députés allemands ont légalisé jeudi à l'unanimité l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques pour des patients atteints de maladies graves comme certains cancers et en l'absence de thérapies alternatives efficaces. Avec la loi votée par le Bundestag, la chambre basse du Parlement, les médecins pourront désormais prescrire du cannabis à leurs patients souffrant de pathologies graves. Le président américain Barack Obama a commué jeudi les peines de réclusion de 330 personnes majoritairement condamnées dans des affaires de drogue, un nombre record annoncé à la veille de son départ de la Maison-Blanche. Il s'agit de la deuxième décision de clémence prise par M. Obama en une semaine, après la commutation surprise mardi de la peine de prison de Chelsea Manning. Ces nouvelles remises de peine annoncées jeudi viennent conforter le record de M. Obama qui, avec un total de 1715, a procédé à davantage de commutations présidentielles que l'ensemble de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche. Culturel maintenant, Caroline Davernas est percutante dans Mary Kills People, une série dans laquelle elle incarne une mère célibataire qui mène une double vie, médecin de jour et criminelle la nuit. Ce rôle riche et complexe fera briller l'actrice non seulement au Canada anglais, mais aux États-Unis. Teintée d'humour noir, Mary Kills People, qui débarquera chez nos voisins du Sud en avril, sera diffusée en primeur au Canada dès mercredi sur Global. En entrevue au Journal de Montréal, Caroline Davernas qualifie Mary Harris, une urgentologue qui aide des patients en phase terminale à mourir, de personnage attrayant. Elle est bourrée de contradictions, de zones grises, c'était très stimulant à jouer. 6 épisodes, c'était parfait pour moi, souligne Caroline Davernas. Ça fait plusieurs années que j'ai plus ou moins envie d'accepter de très gros rôles à la télé parce que ça demande des mois de tournage et des journées de 16 heures. Je l'ai vécu, je n'ai plus tellement envie de répéter l'expérience. Aux États-Unis, Mary Kills People sera présentée sur Lifetime au printemps. La musique de Dumas, bientôt au grand écran, Dumas sera de toutes les tribunes cet hiver, en plus d'avoir fait la musique pour 2 émissions à TVA et ici Radio-Canada Télé. Le musicien effectue un retour au cinéma avec la chanson « Thème de Ça sent la coupe ». Ce sont de beaux hasards, dit-il. Dumas a toujours voulu écrire de la musique de film. Pourtant, à part Les Aimants en 2004, le musicien n'a jamais été sollicité pour le grand écran. Le mois prochain, on pourra entendre sa chanson « Les compteurs à zéro » dans le long-métrage « Ça sent la coupe ». Triste nouvelle, la chanteuse brésilienne de la Lambada, le tube mondial de l'été 1989, Loal Wa Braz Vieira, a été retrouvée morte carbonisée jeudi au Brésil dans des circonstances troubles suggérant un possible assassinat. Loal Wa Braz Vieira avait accédé à une fulgurante célébrité mondiale en 1989 en interprétant avec le groupe Kaoma la chanson connue sous le nom de la Lambada. « 26 ans après avoir chanté Beauty and the Beast, Céline Dion renoue avec l'univers de La Belle et la Bête. La diva enregistrera une nouvelle pièce pour le remake du célèbre film d'animation de Disney qui mettra en vedette de vrais comédiens. Selon les informations des studios Walt Disney, la chanson pourra être entendue durant plusieurs segments du long métrage qui prendra l'affiche le 17 mars. Le groupe Arcade Fire, qui devrait sortir un nouvel album au printemps, a diffusé hier une nouvelle chanson sur le site Tidal ou Tidal, clairement destinée au futur président Donald Trump, qui prend officiellement le pouvoir aujourd'hui, le saviez-vous? Ça, c'est moi qui ajoute ça. Le titre, point d'interrogation, I Give You Power, une pièce à laquelle a participé la chanteuse soul Mavis Staples, connue aussi pour son implication au sein du mouvement des droits civiques. On peut y entendre « I give you power, but I can take it away. » »« Je t'ai donné le pouvoir, mais je peux te l'enlever. » Sur son compte Twitter, le groupe a partagé cette chanson en écrivant ces mots. « Il n'a jamais été plus important de se tenir ensemble et de prendre soin les uns des autres. » Amour, Mavis Staples et Arcade Fire. Grand admirateur de Barack Obama, Bruce Springsteen a fait vibrer une dernière fois les oreilles du président à la Maison-Blanche lors d'un concert privé le 12 janvier, selon le magazine de fans du chanteur Backstreet. Bruce Springsteen a interprété 15 chansons acoustiques devant Barack et sa femme Michelle et un peu plus de 200 membres de l'administration présidentielle, a précisé le magazine qui a l'habitude de rapporter faits et gestes du chanteur.
La plus courte chanson par Gilles Vigneault.
La tournée des journaux régionaux, La Tribune, un article qui s'intitule « Un HLM de 5 étages privé d'ascenseur ». C'est un papier de Alain Goupil de La Tribune. Les résidents des habitations Lioonidas, un HLM situé dans le quartier centre-sud de Sherbrooke, n'ont plus accès à leur ascenseur depuis 2 semaines, ce qui n'est pas sans causer des inconvénients aux personnes âgées ou à mobilité réduite qui habitent cet immeuble de 40 logements répartis sur 5 étages. Après avoir connu divers problèmes mécaniques au cours des derniers mois, l'ascenseur a été mis en arrêt complet le 5 janvier dernier. Depuis cette date, les locataires des étages supérieurs doivent utiliser les escaliers de service pour sortir de l'immeuble puisque l'édifice ne compte qu'un seul ascenseur. Le porte-parole des résidents des habitations Lioonidas, Benoît Lessard, reconnaît que la situation entraîne son lot d'inconvénients pour une partie des résidents de cette habitation à loyer modique, propriété de l'Office municipal d'habitation. C'est surtout pour les personnes à mobilité réduite que c'est le plus difficile, dit-il. On a une dame de 83 ans qui a des problèmes cardiaques et qui soigne un cancer. Elle doit aller à ses traitements de radiothérapie tous les jours. On a aussi une dame qui se déplace en marchette. Elle doit monter et descendre 48 marches à chaque fois qu'elle doit sortir de son logement. C'est surtout ça qui est difficile. On essaie de les aider du mieux qu'on peut, mais... M. Lessard dit avoir été informé que des mesures d'aide aux personnes à mobilité réduite allaient être mises en place sous peu par l'Office municipal d'habitation. On nous a assuré qu'il y aurait des bénévoles qui vont venir aider les gens, par exemple vider leurs poubelles, monter leurs sacs d'épicerie, etc. On nous a confirmé que ça allait se faire la semaine prochaine. Locataire des habitations Léonidas depuis 28 ans, M. Lessard indique que l'ascenseur n'en était pas à ses premières pannes lorsqu'il a été mis en arrêt le 5 janvier dernier. Au mois de juillet, le moteur de l'ascenseur a manqué. À ce moment-là, on nous a dit qu'on allait faire fonctionner l'ascenseur une couple d'heures, le matin, l'après-midi, pour nous accommoder, mais qu'on allait remplacer l'ascenseur par un ascenseur neuf. L'Office nous a dit que le budget avait été accepté. Selon M. Lessard, le remplacement de l'ascenseur se ferait en deux phases. Il y aura une première phase au printemps et une autre à l'automne. Entre-temps, on nous a dit qu'on pourrait avoir accès à l'ascenseur temporairement. Malgré les inconvénients que doivent vivre les locataires à mobilité réduite, M. Lessard dit ne pas craindre pour la sécurité des résidents. On a un bon plan d'évacuation. Le service de protection des incendies connaît aussi très bien notre immeuble. Je ne suis pas vraiment inquiet. S'il le faut, je vais moi-même m'occuper d'évacuer l'immeuble, affirme le porte-parole des résidents. L'Office municipal d'habitation de Sherbrooke se défend d'avoir fait preuve de négligence concernant l'entretien de l'ascenseur des habitations Léonidas. Il est normal dans la vie d'un immeuble où il y a un ascenseur que ce genre de situation survienne, estime le président de l'OMH qui est conseiller municipal Robert Pouliot. Malgré le fait qu'on effectue deux inspections préventives chaque année, ce genre de bris mécanique peut quand même se produire. Selon M. Pouliot, les délais entourant la réparation de l'ascenseur s'expliquent par le fait que la compagnie Otis n'était pas en mesure de trouver les pièces défectueuses parmi son réseau de distribution canadien. La plupart du temps, un bris comme celui-là prend en moyenne 2 à 3 jours avant d'être réparé lorsqu'il s'agit de pièces usuelles. Mais dans le cas de Léonidas, Otis n'avait pas les pièces dans ses ateliers de réparation du Québec ni du Canada. Actuellement, ils essaient d'en trouver une ailleurs dans tout le réseau, sinon ils vont devoir envisager la fabrication. La situation vécue aux habitations Léonidas n'est pas la première du genre parmi tous les HLM que gère l'Office municipal d'habitation, précise M. Pouliot. En novembre, l'ascenseur du 250 rue Laurier a été en rodage pendant 7 ou 8 jours. Même chose pour les habitations Sainte-Marie près de Youville. M. Pouliot affirme qu'en pareille situation, l'Office municipal d'habitation possède un plan d'intervention afin d'amoindrir les impacts sur ses locataires. Lorsqu'une situation comme celle-là se présente, on a des techniciens communautaires qui se rendent dans les HLM pour venir en aide aux gens qui ont besoin d'aide, que ce soit pour monter leur sac d'épicerie ou descendre leur lessive à la salle à lavage. En outre, une indemnité de loyer pouvant atteindre 100 $ par mois est prévu dans les statuts et règlements de l'Office municipal d'habitation. Une telle indemnité a été versée le mois dernier aux habitations Léonidas. On aime beaucoup nos résidents et on essaie de les dorloter du mieux qu'on peut, indique Robert Pouliot. Dans le cas des habitations Léonidas, on sait que c'est une situation difficile pour certains résidents. Ils ont hâte que ça se règle, et nous aussi. Le député Louis Plamondon multiplie les démarches pour aider Karine Gagné. Le député de Bécancour, Nicolette Sorel, à la Chambre des communes, Louis Plamondon, a multiplié les démarches jeudi afin de pouvoir obtenir des réponses quant au sort qui attend désormais Karine Gagné, cette mère de 3 enfants de Sainte-Gertrude emprisonnée aux Bahamas. Le député admet d'ailleurs avoir lui-même contribué à la campagne de sociofinancement afin de voir la jeune femme être libérée sous conditions. J'ai moi-même fait un don de 50 $ de ma poche. Ça m'a beaucoup touché, cette histoire. Ce dernier indique qu'il trouve quasiment ridicule le sort qui est actuellement réservé à la jeune femme. Le garçon en question aurait d'abord dû être carté avant de se trouver dans un bar. Il n'avait pas d'affaires là. Je ne veux pas minimiser quoi que ce soit, mais il y a plusieurs facteurs à regarder dans ce dossier. Jeudi après-midi, le député a pu avoir des contacts avec l'attaché de presse du ministre des Affaires étrangères et compte également entreprendre des démarches pour contacter le consulat du Canada aux Bahamas. Je veux qu'on trouve une solution pour elle. Je veux voir s'il n'y a pas possibilité de devancer la cause, d'établir dès maintenant le montant de la caution à payer pour qu'elle puisse être libérée et contente de la ramener au pays. Je souhaiterais pour elle qu'elle puisse subir les procédures judiciaires à partir d'ici, évoque M. Plamondon. Le député entend d'ailleurs prendre part à l'activité de collecte de fonds qui se tiendra le 2 février prochain pour faire sa part. Et la famille peut compter sur moi s'ils ont besoin d'aide, a-t-il fait savoir. Cabane chez Nathalie, une proposition faite aux créanciers. C'est Mathieu Lamotte qui signe le texte dans le Nouvelliste. La période difficile qu'a traversée la cabane chez Nathalie au cours des derniers mois semble être terminée. C'est du moins ce que soutiennent les copropriétaires de l'endroit, Nathalie Simard et son conjoint Liviguet. Après avoir navigué en eau trouble au cours des derniers mois, notamment à la suite de la fin abrupte de la foire champêtre en juillet, les copropriétaires indiquent qu'une proposition a été présentée aux différents créanciers par l'entremise d'un syndic et que la réponse est positive. Selon cette proposition, les créanciers devraient recevoir 30 % des sommes que l'entreprise leur doit. En tout, les créances impayées totaliseraient environ 628 000 $. Une assemblée au cours de laquelle la proposition sera présentée officiellement aux créanciers se tiendra le 2 février prochain. Et ces derniers devront alors voter pour son acceptation ou son refus. Mais à la lumière des discussions qu'a eues le syndic avec certains d'entre eux, cette rencontre ne serait qu'une formalité, selon Mme Simard et M. Gay. Depuis la fin de la foire champêtre, nous avons continué de travailler avec nos fournisseurs. Ce fut une bien triste situation, tout ce qui s'est passé, mais ça n'a jamais été notre désir. La cabane a également beaucoup perdu dans tout ça. Mais nous sommes arrivés à une entente et c'est très positif à ce niveau. Nous sommes très heureux de pouvoir repartir nos activités sur de bonnes bases solides et de toujours travailler avec les mêmes fournisseurs, mentionne Nathalie Simard. La chanteuse et femme d'affaires rappelle que l'interruption de la foire champêtre cet été a été un coup très difficile à encaisser pour son entreprise. En raison du bruit, des citoyens de la petite localité de Saint-Mathieu-du-Parc ont formulé des plaintes auprès des autorités municipales, ce qui a forcé les copropriétaires à mettre fin à cette activité qui devait se tenir initialement tous les week-ends entre le 15 juillet et le 14 août. Elle précise que d'importantes sommes d'argent avaient été investies pour la tenue de ces rassemblements familiaux qui n'ont finalement eu lieu qu'à quelques reprises. Ici Hélène Denis, passez une très belle fin de semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve lundi à l'émission Les Voix de Service Magazine et Les Voix de Service Quotidien. Un grand merci aussi à Mathieu Tessier à la mise en onde et aux choix musicaux. Grâce à lui, on a entendu un air plus ou moins connu de Charlebois et aussi de Gilles Vigneault. Portez-vous bien. Bon vendredi. Bye bye.